Eh bien bonjour et bienvenue sur bagro.fr pour Toasty numéro 43. Ici Jojo The Kill, j'ai à mes côtés Kaldan.
Salut.
DMDJC.
Hello tout le monde.
Well Cook.
Plus que 9 semaines pour les fêter les 1 an de Toasty.
Oui, c'est une remarque intéressante. Il y a également le chef, Nedad.
Bonsoir.
Et notre invité de la semaine est Alucardo, qui viendra pour vous parler un petit peu de Dead or Alive 5.
Hello tout le monde.
Salut. Eh bien écoutez, on va démarrer tout de suite avec une news Bagro Point, puisque ça ne vous aura pas échappé. Cette semaine, Bagro Point a lancé son channel Twitch TV, et c'est le chef qui s'y colle.
Ouais.
Parce que ouais. Zect a la migraine.
Non mais Zect, il a bu trop de lef pendant qu'on faisait du stream, c'est pour ça. Oui, donc on a ouvert le channel Twitch de Bagro Point. Donc vous le trouverez à l'adresse twitch.tv, alors Twitch ça s'écrit twitch.tv/Bagro Point, en un seul mot. Et que dire d'autre hormis que ça fonctionne et qu'on a fait du stream notamment de Persona 4.
Ce qui est plutôt... Tu peux peut-être expliquer du coup quel est le but à la fin, ce qu'on va faire avec.
Alors qu'est-ce qu'on va faire avec? En fait on sait pas.
Ah ça valait le coup de venir hein.
Non mais on s'est dit non, enfin on va voir, mais on va essayer de faire de se relayer les uns les autres parce que tout. Donc je lui en ai pas encore parlé, en fait j'en ai parlé à personne, mais dans l'idée j'aimerais bien qu'on essaie de proposer au moins une soirée baston par semaine, même si c'est que du training ou un truc comme ça, pour les auditeurs de Bagro Point, pour les visiteurs, etc. Et donc on va voir, mais je sais que Tibbs a du matos pour faire du stream, Valentin aussi, moi aussi maintenant, etc. Donc on va voir, c'est intéressant de faire des... de faire un petit peu de vidéo aussi, puis l'intérêt que ça a, c'est qu'on peut aussi faire des petites émissions vidéo en live comme ça, quand on en a envie. Ce qu'on a fait notamment sur la semaine dernière sur Jojo Bizarre Adventure, donc on a pas mal joué au jeu, je crois, pendant une heure et demie. On a parlé du jeu, alors on est des sacs finis sur Jojo Bizarre Adventure, donc ça n'a strictement rien donné. Et le jeu est foncièrement beaucoup trop cher par rapport à son contenu, quoi. Et à côté de ça, donc on a fait une grosse émission de 2 heures de Persona où on joue et dans lequel j'explique le système de jeu, en gros, de trucs. Vous pouvez le trouver facilement dans la section vidéo, Bagro Point, parce que nos streams iront principalement dans la section vidéo. Donc voilà, c'est pour faire des petits trucs, quoi, essayer des choses à droite, à gauche. Pour l'instant, on tâtonne, mais ça va, quoi. C'est cool. De nouveaux horizons, de nouveaux trucs, quoi. Faut déjà voir si ça marche avant de commencer à faire des plans sur la comète, quoi.
Voilà. Mais est-ce que tu crois que les gens ont envie de voir nos sales gueules?
Écoute, a priori, j'ai envie de te dire oui, parce que, mine de rien, on a eu quand même pas mal de viewers. Bon, alors, on est loin des millions de viewers de l'Evo, mais on a tourné, je crois, au maximum, à un moment, à 45 ou 50 personnes qui regardaient en live quand on faisait du Persona, ce qui est correct pour un channel qui n'est pas vraiment connu, vu qu'on a démarré, on a annoncé le channel le mercredi et on a commencé à streamer le jeudi, quoi. Donc, je pense qu'avec le temps, ça a amené à se développer, et voilà, du moment qu'on propose des trucs sympas, je pense que ça ira, quoi.
Bon, moi, je peux faire de la publicité gratuite ou pas?
Pourquoi?
Parce que moi j'ai vu un excellent article sur Pandacore sur le stream que tu avais fait et j'ai trouvé l'article très très bien fait, alors je vous conseille d'aller faire un petit tour sur pandacore.fr pour justement parler de Jojo.
Ça c'est moi, je voudrais bien voir TMDJC streamer parce que j'aime bien son background quand il stream.
Ouais, j'aime bien son matelas.
Ouais, moi, je trouve ça vachement glauque, j'adore, on pourrait faire les glauques sessions de TMDJC dans lesquelles on le voit jouer à 2X tout seul dans sa chambre contre le CPU, tu vois.
Et à la manette, oublie pas la manette.
Ouais, le pire c'est qu'il a pas besoin de beaucoup de matériel, je t'expliquerai comment faire ça à la limite. Comme ça, tu nous feras des streams from my basement.
J'avais dit au défi il y a pas longtemps de refaire une session. À l'époque, je viandais le CPU en perfect tout le temps sur Street 2, au niveau le plus élevé. Et on m'a dit oh non, quand même pas. Si. Alors je referai ça. Tiens, je me mettrai au défi de vous montrer ça.
Ça marche. Bah, on s'organisera ça.
Tu pourras te planter en direct.
Je pourrais me planter comme une merde en direct, exactement.
T'as moyen de t'énerver.
Ah non, mais c'est parce qu'en fait ça lag quand je stream.
Et le pire étant que voir quelqu'un échouer toujours près du but, voir quelqu'un s'énerver, ça plaît beaucoup généralement.
C'est contre Bison le dernier round et tout. Un petit coup de poing. Non.
Voilà, c'est ça. Ça crée beaucoup d'empathie très vite, très facilement ce genre de truc. Donc c'est très bien. Voilà, voilà.
Ça dépend de qui regarde.
Oui, voilà. Oui, ça dépend, parce qu'il y a des gens, tu n'as aucune empathie pour eux.
Exactement.
Voire au contraire.
Exactement. Tu attends qu'ils soient vôtres.
On a énormément d'antipathie pour TMDJC, tout le monde le sait.
Exactement.
Ça, c'est connu, ça, oui, non.
Oh, c'est connu.
Moi, au départ, je ne comprenais pas pourquoi vous me gardiez. Maintenant, je sais.
Donc, un autre truc, par contre, que j'ai oublié de prévenir. On a actuellement un certain Burnin qui écrit des news sur le site. En plus de Wellcook, qui pour une raison que j'ignore s'est mis à écrire des news sur le site cette semaine, j'ai pas compris, j'ai fait tiens, Wellcook, ouais. Explique ça. Voilà, il doit être en vacances, ce genre de choses. Oui.
Avec juste un coup de main.
D'accord, bah c'était cool en tout cas, merci. Donc oui, on a un certain Burnin qui écrit sur Bagro Point. Alors c'est un jeune homme très sympa. Pour l'instant, il est un peu paniqué, j'ai fait une news, mais elle est en retard. Mais en fait, c'est pas très bien. Mais où es-tu, Nathan? Pourquoi tu réponds pas quand je te demande? Et moi, je suis là, rien à foutre. Et donc c'est pas très gentil, mais je vais m'occuper de lui bien. Et donc, il devrait me filer un coup de main pour les news à venir, sachant que c'est quelque chose qui l'intéresse pas mal, parce qu'il aimerait bien faire, à ce que j'ai compris, des études de journalisme un peu plus tard, et que donc il a besoin d'avoir un minimum d'expérience. Donc voilà, si vous voyez un certain Burnin écrire des news, et qu'elles sont méga vénères, parce que la première news qu'il m'a écrite, elle était méga vénère, bah c'est normal, ne vous en faites pas. Voilà, c'est à peu près tout pour Burnin, les news. Alors.
Ce qui me donne une excellente transition, je te remercie, puisque sa news était sur Persona 4 Arena, et qu'il expliquait pourquoi on était en retard en Europe.
Ouais, enfin, il expliquait entre guillemets, hein, parce que les développeurs, ils ont donné aucune explication.
C'était un petit peu ça, mais bon, c'était la news pendant laquelle il a ragé.
Bah,
et comme c'est toi qui vas en parler, Wellcook, bah vas-y, je te laisse.
Il paraît que pour sortir des jeux en Europe, c'est très compliqué de faire du développement et de la programmation, et qu'ils sont face à des difficultés insurmontables qu'ils ne nous préciseront jamais, pour réussir à sortir la version européenne. Donc voilà, bah, tous les coups, c'est encore quelqu'un dans le staff qui n'a pas su respecter son planning, anticiper les choses qu'il devait faire. Et donc voilà, donc il paraît que si on n'a pas la version européenne, c'est parce que ça, c'est compliqué à programmer.
En fait, c'est d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai eu le community manager par mail, le truc qu'il y a en fait, c'est que... La façon dont je l'ai compris, il ne l'a pas dit clairement, mais c'est qu'en gros, la version japonaise et la version américaine, c'est Atlus qui s'occupait du développement, entre guillemets, de la version console. C'est-à-dire que Arxis préparait en gros le jeu, quoi, a créé le jeu, quoi, mais que en gros, le reste, c'est à peu près Atlus. Ce serait à peu près Atlus qui l'aurait fait. Et en tout cas, Atlus avait mis des moyens et préparé son coup pour sortir donc le jeu correctement aux États-Unis et au Japon à peu près en même temps, parce qu'ils sont sortis à une semaine ou deux semaines d'intervalle. Le truc, en fait, c'est que, encore une fois, malheureusement, on a l'impression qu'on est un peu de retour dans les années 90. C'est pas le cas pour la version européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun travail fait en amont, aucune préparation, aucun planning, etc. Vraiment sérieux de fait pour que le jeu soit fait. Donc, c'est pas le truc en plus qui est compliqué, c'est que pour le coup, c'est Arc System Europe qui se retrouve à éditer un jeu Atlus, alors que d'habitude les jeux Atlus ne sont pas édités par Arc System. Donc en gros, ça crée les gens qui travaillent d'habitude, bah, parce que par exemple les Persona sont sortis en Europe, bien que en anglais ils sont sortis en Europe, et c'était pas du tout Arxis qui les sortait vu que c'était des RPG. Donc en
mais
gros,
Atlus, ils ont jamais rien édité en Europe non plus. C'est toujours des éditeurs tiers qui sont venus derrière apporter les jeux.
C'est ça,
c'est rien de nouveau.
T'as rien de nouveau, mais le truc en fait, c'est que là pour le coup, c'est une sortie Atlus, tu vois. C'est une sortie Atlus en co-Atlus, co-Arc System Works. Et comme Atlus et Arc System Works Europe n'ont jamais travaillé ensemble, bah voilà, c'est le bordel quoi.
Mister Jojo The Kill qui me dit non, mais on n'est plus dans les années 80, ça n'existe plus, les trucs comme ça et tout, hein.
Ouais. Et comme quoi, moi aussi je dis des conneries.
Bah, le truc, c'est que pour l'instant.
C'est le concept de l'émission, non?
D'après ce que j'ai compris, le jeu, par contre, va quand même pas vraiment arrivé tôt, hein, parce que ils m'ont demandé des dates d'événements en France où on pourrait y avoir le jeu avant sa sortie.
Et donc tu leur as dit 2013, ils t'ont fait oulala, non non.
Non,
pas 2015.
Et non, en gros, donc comme événement qu'il y a, donc le jeu va être disponible au Bushido Impact les 1er de septembre à Paris. Et il y a des chances pour qu'il soit aussi disponible au Soul Arena, qui va réunir les joueurs de Soul Calibur 5 et Virtua Fighter. Donc vous pourrez y aller aussi. Il y a des chances pour que peut-être Persona y soit aussi. Et on en parlait aussi peut-être de l'ESB qui a lieu à Lyon, mais pour le coup, là, ça nous amène carrément à novembre. Donc,
et le Paris Games Week, non ?
Bah, le Paris Games Week, c'est pas, entre guillemets, on n'a pas vraiment parlé de ça, parce que ce ne sont pas des événements, entre guillemets, communautaires baston, tu sais.
Oui,
même
d'accord.
Même s'il va y avoir la Coupe de France de Street Fighter, ça n'a, entre guillemets, pas grand-chose à voir. Je suppose que, de toute façon, que Core Media va avoir... qui est l'éditeur, enfin qui est le distributeur en France, va avoir un stand au Paris Games Week, vu qu'ils éditent notamment tout Deep Silver, tout Sega, etc. Enfin, c'est un gros éditeur maintenant, Core Media, enfin un gros distributeur qui fait plein de jeux. C'est aussi eux qui s'occupent notamment de Guild Wars 2 qui vient de sortir. Donc, tu vois, c'est un gros truc. Donc voilà.
A priori, fondamentalement, juste une question. Fondamentalement, la version européenne, il y a rien de différent par rapport à la version américaine.
Bah, fondamentalement, non. Mais ce qu'on se demande, s'ils sont pas en train d'essayer aussi d'implémenter le patch anti-lag de la version Xbox dedans, et que souvenez-vous qu'il y avait eu des bugs avec les patchs online sur BlazBlue, et qu'une des sorties d'un des BlazBlue avait vachement été repoussée en Europe pour qu'ils implémentent le patch dedans.
Dans le Nathan, très honnêtement, pour bosser dans le développement, presser une galette avec un programme qui a été patché, c'est quand même pas compliqué. Hein.
Non, mais après.
Non, mais il y a pas de ressources, on t'a expliqué. Hein.
Ouais, c'est ça.
Je crois que le problème, il est ailleurs. Je pense que le problème, c'est tout simplement que c'est le Japon, qu'ils en ont rien à foutre de l'Europe.
C'est surtout ça. On est bien d'accord.
Ils ont un management, enfin le management au Japon est très particulier et que.
Ça vient de le dire.
Ben voilà, quand tu vois comment ils gèrent une crise nucléaire au Japon, tu te dis que pour un jeu vidéo...
c'est même pas
du troll, là. Ils viennent encore d'annoncer que, attention, s'il y avait un truc qui s'effondrait... Si la piscine qui tient sur des espèces de... sur un toit à moitié éboulé à Fukushima se renverse, ça fait l'équivalent de 5000 fois Hiroshima. Alors là, tu fais, bon, ok...
Je voudrais juste préciser...
Ça fait un an et demi que la piscine, elle est bancale, tu vois. Tu te dis, bon...
Préciser un truc par rapport à ça quand même. Quand tu vois le nombre de super-héros qui existent au Japon, pourquoi il n'y en a pas un seul qui s'est bougé le cul pour
les... Il n'y en a pas des super-héros au Japon. Qu'est-ce que tu racontes ?
Sentai, c'est quoi ? C'est pas des super-héros.
Et TMDJC, l'adolescence, il serait temps d'arrêter. T'arrives près, t'approches des 40 ans et tout. Là, il va falloir l'admettre un jour, tu sais. Ça n'existe pas, les super-héros, les gros robots.
Non, mais dis pas que les gros robots n'existent pas.
Si, ils sont Gundam, en train de fabriquer, là.
Le Gundam au Japon, tu sais, il bouge pas. C'est juste une statue.
Eh ben maintenant, j'en ai un peu qui bouge.
Non, mais, d'accord, mais Grandizer.
Oui, mais merde, on s'en fout.
Bon, Jojo, tu reprends la main.
Oui, non, mais moi, je vous écoute. Je suis toujours émerveillé devant votre capacité à rebondir sur rien. C'est impressionnant.
Je suis désolé, mais je dis beaucoup de merde parce que j'ai arraché du linou.
À propos de rebondir, on va parler de...
Je dis beaucoup de merde parce que j'ai arraché du linou. Oui, c'est normal. C'est
la logique, hashtag la logique. Il y avait du lino, c'est du lino avec une couche de flotte entre les deux. C'était l'inception du lino cet après-midi dans mon appart.
Tu viens à la maison, on est en train d'arracher le papier peint.
Oh non, j'ai déjà fait ça chez moi, tu te démerdes.
C'est beau, voilà, là. Donc mesdames, d'Amido, on va se calmer. Et on va continuer sur Dead or Alive 5. N'est-ce pas ?
Attends, on n'a pas dit qu'il y avait plein de vidéos sur Persona 4.
Ouais, on va rebondir sur les seins des personnages de Dead or Alive 5, donc, qui sont visibles en vidéo sur le site Bagro.com. Vous avez la vidéo notamment qui est commentée par les développeurs. Vous avez deux sets de vidéos. La première, elles sont commentées donc par les développeurs qui parlent de la manière dont ils ont essayé de rendre le jeu plus réaliste, d'intégrer les personnages de Virtua Fighter dans le jeu. Et vous avez une deuxième vidéo qui parle de deux nouveaux personnages, enfin anciens personnages, qui sont Hélène et Lisa.
Et est-ce qu'ils le font en italienne, c'est-à-dire est-ce qu'ils utilisent les mains pour décrire ce qu'ils font?
Ah non, j'avais dit que je faisais pas la blague d'Hélène et les garçons, mais tu fais pas ça, non.
Oh non, mais et après c'est moi qui dérive, tu sais, du sujet quoi. Genre quel est le putain de rapport entre des Italiens et des Dead or Alive, tu vois. Le lien pour trouver.
Non, c'était un lien avec la news de la semaine dernière, comme quoi ils avaient mis la main à la pâte, tout ça.
Oh. Alors, ah oui.
Voilà. Je viens de revenir de vacances, je n'ai pas vu la vidéo de la semaine dernière où ils mettent la main à la pâte.
Non, il n'y avait pas de vidéo, malheureusement.
C'est
vidéo.
Ça qui est triste.
Ouais, c'est tout ça le problème.
On aurait tous aimé voir hein, ce que ça donne.
Non, mais ce que vous pouvez voir dans ces vidéos, c'est des costumes, des personnages qu'on n'a pas encore vus, notamment dans la première vidéo. Ils n'en parlent pas, mais vous voyez des costumes, notamment un costume cuir de Kazumi, ce qui est toujours pour les gonzesses, hein, on voit les persos, les costumes en question. Donc voilà, sinon au niveau du jeu en lui-même, bon, ils sont en phase promotionnelle, donc il n'y a pas de nouveauté. Ils présentent à chaque fois au compte-goutte deux, trois choses. Alors je ne sais pas si Alucardo, toi, tu as vu les vidéos en question.
Ouais,
si tu peux en parler.
Ouais. Bah, les vidéos, elles ont principalement un intérêt cosmétique, hein, parce qu'en termes de gameplay, il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. Les nouvelles mécaniques, on ne les voit pas. Voilà.
Mais ça, c'est parce que le jeu n'est pas fini.
C'est des sacs. Hein,
ça, ouais, ça. Moi, je pense que c'est surtout ça, en fait. Hein. Donc ouais, c'est bah le jeu il sort dans un mois, donc maintenant s'il est pas fini là.
Oh bah là, ils en sont pas loin de 50% de développement.
Ouais.
Oh, mais quel mesquin ce type là.
Non, je plaisante, là tout le monde fait pas comme Capcom, c'est bon. Là.
Oh, tout de suite, mais quel mesquin ce type.
tu veux dire qu'en fait
OK, tout le monde fait pas comme Namco et comme
voilà, il y a des gens qui sortent des jeux qui sont pas terminés. C'était ça ton propos?
Ouais, ça arrive de temps en temps, ouais. Mais bon, j'ai décidé de ne pas troller Captain Algeria qui, pour la 4e semaine consécutive, esquive notre invitation.
Ah, quelle flatte. Mais qui nous fait des bisous.
Voilà. Ah, on parlait de Namco.
Oui. Et ben voilà, Namco avec une actualité Tekken Tag Tournament 2.
Ouais, alors Namco, ils ont annoncé, ils ont présenté le mode custom de Tekken Tag Tournament, dont on a une vidéo, qui n'est pas de Namco d'ailleurs, qui est de, comment il s'appelle ce
bon, streamer, un mec sur le net.
Un mec, voilà, qui nous présente le mode custom, sachant qu'on avait dit la semaine dernière, il me semble que vous aviez dit que tout était gratos, m'arrivera au compte-gouttes. Bon, ça ressemble au mode de Soul Calibur, de custom de Soul Calibur, donc on peut faire pas mal de jolies choses, et donc c'est assez intéressant.
Ce qui n'est pas très étonnant hein, quand on connaît les deux éditeurs en question hein, de ces deux jeux, hein, bien sûr.
Ouais, bah celle-là, ça reste la même source. On ne peut pas agrandir la taille des boobs des personnages féminins, et même masculins d'ailleurs. Et vous avez une autre vidéo par le même mec du net, il me semble, qui détaille le mode tutoriel, qui montre les stages, les différents stages du tutoriel, du fait que tu puisses customiser tes persos quand tu avances dans le tutoriel, et qu'à la fin du tutoriel, tu dois battre un boss avec tout ce que tu as appris dans les phases précédentes du tutoriel.
Voilà. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais c'est vrai que moi, je suis pas très actif sur les news en ce moment, c'est parce que je gère plein de trucs de derrière, plomberie, quoi. Ouais, la plomberie notamment, mais pas que. Enfin, d'autres projets relatifs à Bagropoint.
Quoi, tu nous prépares bientôt.
Des locaux pour le streaming. Non, pas vraiment des locaux. Un truc qui rime, mais pas des locaux malheureusement. J'aimerais bien, Omar.
Un truc qui rime.
Bon, ah, ça reviendra.
Attends, déjà, on fait du stream maintenant. Vas-y, quoi.
Très bien, toujours chez Namco.
Toujours chez Namco, on a eu Supermenteur qui nous a tweeté une petite info. Qui apparemment
qu'on embrasse d'ailleurs, Supermenteur. Ouais. On aime bien Supermenteur, nous.
Ouais.
Oh, enfin, ouais. Pour toi.
Ah, toi, peut-être.
Non, c'est pas vrai, tout le monde aime Supermenteur.
Ah, il est sympa. Il est sympa, il a des jeux, il joue bien et tout. Il connaît des vieux jeux.
Bon, bref.
Bon, vas-y, continue.
Et en fait, Namco ouvre un club VIP. Club VIP, t'achètes un jeu, tu gagnes des points, et quand t'as un certain nombre de points, tu peux gagner des prix. Et donc, dans les prix, t'as des trucs pourris, comme d'habitude, des porte-clés. Et si t'as 50 000 points, tu peux avoir un stick Ori, Soul Calibur 5.
Alors, la news ne précise pas combien de jeux il faut avoir pour avoir un stick, mais...
Il faut acheter à peu près 50 jeux Namco. Donc, faut trouver 50 bons jeux Namco pour avoir...
Bon, ça se trouve sur 40 ans, hein.
Sur 40 ans,
ça se trouve. Oui, sur 40 ans, ouais.
Forum, puisque chaque fois que tu fais un post sur le forum, tu as 5 points. Et comme il faut avoir 50 points, il faut lancer un grand débat philosophique sur Street Fighter Cross Tekken ou ce que tu veux.
Donc c'est le premier qui a codé un pote qui va poster sur le forum qui gagne.
Alors attention, parce que Street Cross Tekken, c'est pas un jeu Namco. Hein.
Ouais, justement, il faut poster. Mais de toute façon, tu mets tes posts et tu restes
sur le forum. C'est un jeu tout court.
Forum. Tu vas avoir une discussion intéressante.
Intéressante sur un forum comme ça.
En tout cas, tu peux gagner un stick Ori sous le calibre 5, soit pour Xbox sur PlayStation 3. Tu peux également avoir à moindre frais sous le calibre 5, un DLC de sous le calibre 5 ou de Dark Souls. Bon, ça c'est des jeux. Tu peux avoir un tapis de Tu peux avoir des porte-clés comme j'ai dit, One Piece, Pac-Man.
Génial, c'est le pack de voyage Pac-Man. Avec la pesace, le petit pantif pour accrocher sa carte, ses crayons Pac-Man, c'est magique.
C'est génial. Tu en prendras un pour aller en Espagne ?
J'aimerais beaucoup. Mais je l'ai vu en vente plus une fois, mais... Bon, passons.
Ok. Bah écoute, Will Cook, c'est toi qui avais newsé ça sur le site, avec une actu sur Xuan Duzi Wang.
Tu m'as tellement fait plaisir, Well. Tu m'as tellement fait plaisir quand il l'a newsé. J'étais là, waouh, trop bien.
À le faire.
Non, c'était trop bien, quoi.
Bah, c'est juste que ce jeu, on le suit pas beaucoup. Et puis, bon, tout le monde connaît ses bases. Hein, ça pompe beaucoup de coffres et un petit peu de partout ailleurs. Donc, il y a un nouveau perso féminin qui a été dévoilé, qui est un peu une copie au niveau design de Juri. Au niveau du coup, on trouve du Juri, on trouve du Kim Kafwan, car elle fait du taekwondo. Et
Du Chun-Li.
Oui, aussi, il y a les 1000 pieds.
Très discrètement. Il y a les 1000 pieds. Les 1000 pieds, elle a aussi le petit coup de pied bas, je crois, où elle est debout, qu'elle a dans 3-3.
Mais ils sont bons quand même pour repomper et reskinner les personnages.
Ah ouais, non, mais tu revois chaque personnage, chaque coup, tu peux le situer dans un autre jeu vidéo et le retrouver. C'est magique.
Ça fait penser à Street Fighter Cross Tekken au début, tu sais, quand tu voyais des autres persos sur les persos Tekken.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un blind test. Et en fait, quand tu regardes le perso, tu dois dire le plus rapidement possible, tu fais Ryu, Street Fighter 2.
Mais Kyo, ça pourrait faire un jeu. ça pourrait faire un jeu super marrant, ça, en soirée.
Oui, tout carrément. À fait.
Non, mais franchement, c'est carrément, comme il dit, c'est pas un blind test, justement, parce que les aveugles, malheureusement, seraient un peu dans la merde sur ce jeu. Mais alors. mais je vous invite, ne serait-ce qu'à taper Xuan Duzi Wang dans YouTube mettez intro. Voilà. Et là, vous chialez tellement, en fait, c'est l'intro Street Fighter 4, mais avec de la mauvaise 3D. Alors,
pour écrire le nom, ça s'écrit Coff Chinois. Vous tapez Coff Chinois, vous tombez dessus.
D'accord, voilà.
Mais truc, quand tu regardes le jeu, en fait, les sprites, c'est pas vraiment des sprites, c'est plutôt des modèles 3D qui récupèrent et qui digitalisent. Donc c'est un petit peu moche. Mais sinon, il y a l'air d'y avoir de la bonne volonté. Hein, d'un point de vue, c'est vraiment un pur coffre d'un point de vue gameplay.
Hein. Ah non, il y a du budget dans la copie. Hein.
Ah non, clairement.
Hein. J'aime bien l'expression, il y a de la bonne volonté.
Non, il y a vraiment de la bonne volonté dans ce jeu. Faut arrêter de
chef, t'avais pas eu accès à la bêta?
Bah non, en fait, parce que j'ai bien rempli le questionnaire de bêta, j'ai réussi à télécharger le jeu, et croyez-moi, c'était pas une mince affaire, hein, parce que
ça débarquait.
bah en fait, non. Mais au moins, ils auraient pu me dire s'ils avaient débarqué, si j'allais avoir mon invite un jour ou pas, tu vois. Mais non, mais attendez, le pire étant, c'est que j'étais avec MK sur IRC, si tu veux, et on cherchait comment accéder à la bêta. Alors déjà, en Chine, en Asie généralement, il y a 2 ou 3 sites internet différents. Pour le même jeu. Bref, hashtag la Chine, quoi. La Chine, tout ça. Et en gros, si tu veux, moi, je demandais une clé bêta, mais pas sur le bon site. Donc, on a fini par trouver le bon site. Et à la fin, il y avait un questionnaire. Alors, tenez-vous bien, pour avoir une clé bêta sur Xuan Duzi Wang, il faut répondre à un questionnaire on vous demande pas votre âge, on vous demande pas machin. On vous demande si, genre, par exemple, Yori, il avait tel coup dans KOF 98 et pas longtemps. C'est pas des conneries, je vous jure. On était en train de traduire le truc et il me fait « Non mais attends, regarde les traductions Google. » Et je regarde les traductions Google et oui, il y avait les traductions donc littérales, malheureusement, des coups, si tu veux. Et il a fallu que je déconstruise les phrases pour trouver l'idéogramme chinois du dit coup, que je le mette, tu vois, dans Google Images. Donc là, ça me donne un gif animé, mettons, de tel coup, tu vois. Et je fais « Ah ouais, c'est son demi-tour arrière, machin, bidule. » Je cherche le nom du coup, et après, j'ai dû comparer des move list et des conneries comme ça. Et le mieux, c'est que tu peux choisir. C'est-à-dire qu'au début du questionnaire, on te dit « Vous êtes plutôt Street Fighter ou vous êtes plutôt KOF ?» Et donc, tu choisis ton questionnaire. Dans l'un, tu as des questions sur Street, dans l'autre, tu as des questions sur KOF. Alors, je crois pourtant qu'on a répondu bien à toutes les questions, mais on n'a toujours pas de clé bêta. Et pourtant, on a quand même créé des fausses cartes d'identité chinoises en ligne et des trucs comme ça. Bref, ça fait 2 mois que j'attends. Donc,
ce serait sympa qu'ils fassent pareil aux entrées des États-Unis plutôt que de poser des questions du genre est-ce que vous souhaitez mettre une bombe dans notre avion, etc. Quel est l'acteur qui est devenu président. Ça, ce serait rigolo, ça.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, ne faites pas les cons. Si vous allez aux États-Unis, ne dites pas oui. Si vous vous demandez si vous voulez poser une bombe.
C'est dans la merde.
Parce que vous êtes grave dans la merde.
Exactement. Tu dis avec des potes, tu dis oh, c'est con comme question, on va rigoler un peu. En fait, tu rigoles au moment où tu le fais, le truc. Mais après, il y a un après. Donc ne fais pas ça, mes internautes.
Et après, il y a un truc qui s'appelle Guantanamo, tu vois. Voilà.
Ah, mais je pense que tu en rigoles après, mais longtemps après.
Ouais, ouais.
Quand tu sors de prison.
Prison.
Tiens, bah, je relance Guanduzi Wang, il y a encore une putain de mise à jour. Parce que je tiens le jeu à jour pour le jour où j'ai mon. Tu vois, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre.
Non, mais attends, c'est un jeu chinois, on peut pas le craquer?
Bah non, parce que c'est.
En fait, ils sont tellement habitués à craquer les jeux qu'ils savent faire des protections qui marchent.
Voilà, et le truc surtout, c'est que c'est un jeu, si tu veux, qui est mis en ligne très régulièrement sur le même modèle que les MMO ou que les MOBA type League of Legends ou ce genre de choses, ou Dota. Donc, résultat, en fait, tu as un lanceur pour le jeu. Quand tu lances le jeu, en fait, ça donne un lanceur sur lequel il y a les mises à jour, les news, des trucs comme ça. Deux artworks complètement dégueulasses en fond. Et pour le reste, bah, il vérifie si ton compte est OK. En gros, j'ai déjà créé mon compte. J'attends le jour où, par exemple, il ne sera plus en bêta, bah, je pourrai y jouer directement. Mais donc là, il me dit, bah non, t'es, OK, tu as un compte, OK, tu as installé le jeu, OK, il est à jour, mais tu n'as pas de clé bêta, donc dans ton cul, Lulu. Voilà.
Ça fait combien de temps que tu traînes avec Zect, maintenant? Parce que vous commencez à avoir vraiment les mêmes façons de vous exprimer avec les mêmes intonations, ça fait super peur. Hein.
Ouais, mais le problème, c'est que bah, Zek, t'es resté chez moi pendant 3 jours à boire de la lèche et à coder, alors je viens de dire.
Non, maintenant je sais pourquoi.
Voilà. Il a recodé le plugin de stream d'ailleurs, et maintenant ça vous affiche nos casteurs favoris, notamment il y a Valentin dedans. Et un petit drapeau français quand le monsieur il est français.
Voilà.
Wow. Il y a Ken Bogard aussi dedans.
3 jours de codage pour ça.
Ah, well, cook, c'est pour ça que je t'adore.
Ça répond pas à la question. Bon, et pour éviter toute situation embarrassante, on va continuer avec French Bread.
Ouais.
Et Under Night in Birth.
Ah oui.
Voilà. Nathan, rafraîchis-moi la mémoire. Il y avait pas un moment où on avait parlé de l'implication d'une manière ou d'une autre de Arxis dans ce jeu?
Ah non, tu confonds avec Phantom Breaker.
Non,
Phantom Breaker, c'est encore autre chose. D'ailleurs, apparemment, Tibbs a essayé de faire jouer des gens à Nantes à Phantom Breaker et au bout d'un match, ils ont arrêté et ils ont mis Garou. Faut dire la qualité du jeu.
C'est
Chaos Breaker qui a été fait par un studio qui avait une branche australienne et taïwanaise, si je me souviens bien, dont la réalisation c'était deux frangins dont j'ai oublié le nom. Et en gros, il a mis vachement de temps à sortir. Et il est sorti sur arcade et il a eu une mise à jour, je crois, au début de l'été ou fin juin, début juillet, il me semble, qui corrigeait notamment des infinis, rajoutait une version différente d'un personnage qui a le même sprite, mais une version différente, et qui lui-même aussi est un peu un Guanduzi Wang, mais en 2D en fait, en vrai 2D avec des sprites, parce qu'il reprend énormément de coups de KOF, de Guilty Gear, etc. Et c'est ce jeu-là qui a eu un coup de main de la part de Arc System Works pour sortir en arcade, même si on ne sait pas exactement comment. Et d'ailleurs, ce jeu n'a pas de nouvelles depuis un moment, mais il me semble que c'était en février ou mars dernier, il y avait eu une photo qui avait circulé d'une version PS3 potentielle qui serait éditée par Sony Computer Entertainment. Mais depuis, il y a 9. Ouais. Mais ça fait, c'était juste, c'était vraiment une photo volée dans un salon privé Jap, etc. Donc, pour le coup, on ne sait pas où ça en est donc, pour ce jeu-là. Voilà. Et donc non, Under Night in Birth, donc pour revenir au jeu qui nous intéresse, c'est le nouveau jeu des créateurs de Melty Blood, donc l'équipe, le studio French Bread. Et c'est French Bread, pardon. Et c'est une production tout à fait originale pour le coup, parce que jusque-là, enfin, ça fait quand même plusieurs années que ces gars-là, malheureusement, ne pouvaient faire que du Melty Blood ou des trucs un peu équivalents. Donc là, ils se lâchent et je suppose que je peux dire la news. Donc il y a des vidéos pour tous les personnages sauf un, je crois que c'est le boss, qui ont été dévoilés. Donc on les a mis sur le site et ça fait quand même grave envie parce que la réalisation est vraiment superbe. C'est pas aussi c'est pas aussi pimpant qu'un BlazBlue, tu vois, au niveau en termes de design, en termes de finition. C'est pas aussi parfait, mais en même temps, ça en est que d'autant plus sympathique un sens.
J'ai oublié de rebondir sur ce que tu disais en disant que tu as vraiment l'impression que l'équipe de développement s'est un peu éclatée là-dessus. Donc moi, j'ai hâte de voir la suite.
Ah, totalement. Il y a des personnages, rien que le chopper, tu vois le chopper, ses bras, ils font l'arbre de l'écran, tu vois. Ça chope normal, elle chope à l'autre bout de l'écran. Enfin, c'est que des délires comme ça qui sont vraiment surprenants. Et puis même en termes de réalisation, je suis vraiment content parce que ça fait un... Enfin, TMDJC aussi est un grand amateur de sprites 2D.
C'est rien de le dire.
Technique d'animation, autre chose comme ça. Et on avait pas mal discuté notamment de comment on crée des sprites. Mmh. Et BlazBlue se base vraiment beaucoup sur la 3D à la base. Et c'est d'ailleurs marrant, mais quand vous jouerez à Persona, vous verrez que le jeu, en fait, est vraiment pas réalisé pareil. Certains éléments, oui, mais on se rapproche vachement plus d'un dessin traditionnel. Donc, c'est d'autant plus agréable. Et pour le coup, Under Night in Birth a cette même touche très dessin et c'est très très agréable aussi. Voilà.
Old school, mais un jeu moderne et j'aime bien.
Tu veux dire comme Samurai Shodown ?
Quoi ?
Vous comprendrez le rapport quand le podcast sera en ligne.
Ah oui,
de vrai. Ouais, je pense que ça y est, ils ont compris. Le jeu, il sortira sur quel support ?
Alors, il sort en arcade le 20 septembre prochain, donc c'est très proche. Et après, on ne sait pas trop. On suppose, comme tous les jeux de baston, dans leur première version, qu'il aura des défauts, ils vont trouver des trucs, etc. Et qu'il va être patché très rapidement. Je pense, de toute façon, il n'y a aucun jeu de baston qui, dans sa première version, est vraiment parfait. Tu vois, il y a toujours des défauts. Même Persona, qui nous arrive aujourd'hui, il a été patché deux fois parce qu'il y avait des... Et il y avait notamment des 100% à partir d'un stand B avec certains personnages. Donc bon, tu fais... Voilà, What the fuck.
Non, mais et Captain Algeria te répondrait que Street Fighter Cross Tekken était parfait dès sa sortie.
Oui, mais bon, après...
Et n'a pas d'infini.
C'est dommage qu'il ne soit pas là.
On parle pas de jeu. Et le truc, c'est que on ne sait pas trop sur quoi il sortirait après l'arcade. Déjà, il ne va pas sortir tout de suite parce qu'il sort sur... je pense que Will Cook pourrait nous éclairer sur le nouveau système de Sega qui copie le Taito...
Non, il ne le copie pas, c'est la nouvelle version. Alors, je ne sais plus si c'est le Ring Edge ou le Ring Wide, c'est l'un des deux. Je crois que c'est Ring Wide. Ils ont une nouvelle version qui sort, qui est juste une mise à jour hardware avec un PC un peu plus puissant. Mais en soi, ça reste une base de PC, donc ça n'a rien de bien compliqué à porter ou à adapter ailleurs.
D'accord, mais pour le coup, par contre, ça reprend le business model du Nessica Live, qui est qu'on achète le jeu pas cher en démat, et que le crédit, une partie du crédit de la pièce revient
au reversé.
Alors ça, je me souviens plus comment il s'appelle chez Sega ce système-là, mais effectivement, ils ont fait le même système où c'est du dématérialisé en fait, dématérialisé pour l'arcade, où tu as un serveur, tu récupères ton jeu, tu le fais tourner, et puis c'est sur le crédit que le développeur se rémunère plutôt que sur la vente du jeu.
Comme on l'exprimait la dernière fois, il y a de fortes chances de toute façon que ce business model en fait s'adapte à peu près à tous les développeurs qui vont continuer à travailler en arcade au fur et à mesure, parce que les premiers exemples qu'on a ont plutôt un retour positif et de la part des mecs en salle et en tout cas ceux qui ont les moyens et des éditeurs et des développeurs, donc il n'y a aucune raison qu'ils continuent pas au fur et à mesure.
Le fait que on verra pas les jeux en France, quoi.
Oui, mais bon.
Non, mais c'est notre problème. On en revient à ce qu'on exprimait tout à l'heure. Les Japonais, pour l'instant, n'ont strictement rien à faire.
Voilà. Et puis il y a un truc qu'il faut bien noter, si tu veux, avec ce système-là, c'est que comme l'avait expliqué Arxie dans une interview que j'ai faite il y a 2 ans et que je n'ai toujours pas publié parce que le matériel de base est absolument horrible. En fait, ça les pousse.
Comme vous ne l'avez pas lu.
Si vous l'avez pas lu, je vais vous résumer une partie. Mais ça pousse en fait les développeurs à écouter les joueurs, à comprendre ce qui plaît dans un personnage, ce qui plaît pas, à trouver les erreurs, et surtout, la mise à jour pour l'exploitant arcade coûte pas 2 000 €, tu vois. Tu peux patcher ton jeu dans les 3 mois, alors que si tu devais sortir une nouvelle version en dur pour la corriger ou autre, parce que corrige-moi si je me trompe, mais il y a des patchs faisables par clé USB, mais personne s'est jamais servi de ces trucs-là.
Non, mais le problème, c'est que ce genre de patch, c'est arrivé uniquement avec les hardware PC, et les hardware PC en arcade, il faut bien voir que c'est quand même très récent. Grosso modo, ça date de la génération de consoles HD, hein, pour simplifier. Voilà.
Donc ils le font pas.
Ils le font pas.
Ils l'ont fait pour Street 4, par exemple. Mais c'était des patchs payants.
Ouais, c'est ça, c'était payant.
Et donc, pour le coup, là où c'est bien pour eux, c'est que ça leur permet d'envoyer via le web, si tu veux ajouter un personnage, si tu veux équilibrer un truc, etc., ça va vite, c'est instantané, et c'est bien, quoi, en un sens. Moi, j'aimerais bien que les jeux se développent comme ça sur console, c'est-à-dire que tu achètes ton CD, ton DVD, et qu'il y ait un suivi tout du long. J'adorerais aussi que sur PC, ils fassent ce genre de business model, notamment.
Mais surtout que ça existe pour d'autres jeux, donc il n'y a aucune raison que le jeu de combat, en fait, ne s'adapte pas à ce type de prérogatives. C'est un truc qui existe depuis des lustres maintenant, j'exagère à peine, sur les RPG par exemple ou sur les jeux de guerre. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça chez nous.
Tu regardes Guzan Duzi Wang le fait, quoi.
Par exemple.
C'est con, mais j'en parlais avec des gars de Namco une fois, je leur disais, mais pour les versions PC, vous songez que. Enfin, vous regardez les modèles de développement PC. Pot de zob, quoi, en fait. Les compagnies japonaises sont pas PC, si tu veux, et ne s'intéressent pas, ne regardent pas le potentiel et les modèles de distribution PC, quoi.
Donc, pourtant, c'est incroyable.
Il y a un vrai marché PC au Japon, en plus.
Oui, c'est
un marché différent du marché console, mais il y a un vrai marché PC aussi. C'est bizarre qu'ils veulent pas le regarder.
C'est vrai que quand tu regardes Wellcook, les jeux qui sont édités sur PC sont rarement les mêmes, entre guillemets. Il y a des jeux communs, mais le public au Japon n'est quand même pas le même que...
C'est vrai que les jeux consoles édités sur PC sont édités pour le marché occidental. Ça, exact. C'est tout à fait vrai.
Un exemple de Dark Souls qui vient de sortir, et si tu regardes bien Dark Souls, je rigolais parce qu'il est sorti, donc au moment où vous écoutez ce podcast, il est sorti il y a une semaine à peu près. Donc il est développé par From Software, qui est une boîte typiquement japonaise. Il y a eu une demande des joueurs, des pétitions pour la version PC. Alors ils ont dit, ok, on va faire une version PC, mais on n'a jamais fait de jeu sur PC. Donc en gros, on vous fait le jeu, mais alors il va venir comme sur console. Et ils avaient dit...
Ouais, c'est ça, tu as la résolution du jeu console.
Donc en gros, tu as
des textures originales, effectivement.
Voilà, en fait, tu as le... Sur PC, le jeu a un framerate qui était bloqué ou je ne sais pas trop quoi. La résolution de base était en 1024 par 768.
Ah, c'est même pas une 720p.
Voilà, avec un espèce de filtre de flou assez horrible. Et là, donc les modeurs PC, en quelques jours, ont réussi à débloquer la résolution.
Je te coupe. En 27 minutes.
En 27 minutes, ouais, c'est vrai.
Ils ont débloqué. S'il te plaît.
Voilà, en 27 minutes, ils ont débloqué la résolution, premièrement, et ensuite, ils ont commencé à rajouter tout ce qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire de l'anti-aliasing, ils ont augmenté la distance d'affichage et de vue, donc les décors deviennent absolument merveilleux. Ils ont rajouté absolument tout ce que les développeurs n'avaient pas fait, donc ça en dit long, en fait, sur le fait que les gars, en fait, ne savent même pas qu'on peut régler sa résolution sur un jeu PC, tu vois. Donc à partir de là, bon, leur demander de développer un jeu de baston avec un lanceur, des mises à jour.
Ça fait beaucoup. Il y a un vrai décalage, mais c'est
incroyable. Il y a un décalage. Incroyable. Mais moi, je comprends pas, par exemple, tu vois, qu'il y ait toujours des versions iPhone, machin ou autre de Street Fighter 4 et qu'il n'y ait pas une version PC en free-to-play où tu achètes les personnages au cas par cas ou en débloquant ou des trucs comme ça. Ça rapporterait beaucoup plus de thunes. Le pire, c'est ça le pire, c'est que ça leur rapporterait tellement de blé, quoi. T'imagines Tekken Tag Tournament 2.
C'est un modèle qu'ils n'ont pas assimilé, c'est tout.
T'imagines Tekken Tournament 2 avec plus de 60 personnages dans le roster, t'en mets ne serait-ce que 10 pour démarrer les personnages de base et après tu les débloques soit avec le temps, soit avec de l'argent, soit avec des points gagnés. Oh, mais fou.
Ils l'ont fait, ça, regarde. Ils t'ont fait d'abord Tekken hybride HD pack avec la demo de 4 personnages, et après, ils t'ont sorti le jeu.
Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon,
non. Voilà. Ah bon. Allez, je vous propose de continuer avec l'actualité suivante. Et alors, tout à l'heure, TMDJC vous disait, voilà, si vous prenez l'avion pour déconner, dites pas, oui, je viens faire un attentat terroriste, parce qu'en fait, c'est pas marrant. En tout cas, ça peut vous faire rigoler sur le coup, mais après, vous rigolerez moins. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Rare, le jour où Microsoft leur a dit, venez, on vous rachète. Pour déconner, ils ont dit oui. Et depuis, Killer Instinct.
Ouais. En fait, il y a un développeur de Rare qui s'est mis à parler et qui a raconté que Microsoft, en fait, ont refusé tous les projets... un peu hardcore ou pour vrais joueurs, leur cible de base, et qu'ils ne voulaient que des jeux famille. Donc c'est pour ça qu'on a eu Viva Pignata et Kinect Sport.
Là où c'est fort, c'est qu'ils n'ont jamais fait de jeux comme ça avant. Ils faisaient vraiment des jeux qui avait de la patate, quoi.
Alors, voilà, pour être exact, en fait, ce qui intéressait Microsoft chez Rare, c'était la qualité de développement et pas du tout le catalogue. Ce qui explique pourquoi ils ont imposé en fait à Rare un point de vue qui n'est pas du tout le leur.
Et c'est pour ça qu'il y a pratiquement tout le monde qui est parti.
Oui, aussi.
Qui est parti et que tous les gros projets, tous les beaux jeux qu'ils avaient sortis, eh ben, on ne verra pas de suite. Dont Taylor Instinct. Il n'y aura jamais de Taylor Instinct. Pourtant, ils avaient commencé à bosser dessus.
Voilà, ça ne les empêche pas de nous teaser à chaque fois qu'ils peuvent sur un petit KI3 qui traite quelque part sur une carte postale ou des trucs comme ça.
Mais je ne vois pas l'intérêt qu'a eu Microsoft. Enfin, le choix est quand même bizarre. Parce que quand tu regardes la qualité
de la Wii.
Tu te dis, bah oui, je prends pas que la qualité de développement, je prends l'historique qui va avec, quoi.
Parle pas de la Wii, attends, ils ont racheté Rare bien avant que la Wii soit dans les tuyaux.
Oui, mais tout ce qui est via Pignata, c'est vis-à-vis de la Wii qui arrivait, ils ont vu que le marché casual est sur le point d'exploser.
Attends, ah oui, regarde, le premier jeu de Rare sur 360 était un espèce de jeu de plateforme un peu moitié, si je me vous souviens bien, et ça avait aucun intérêt de base.
Oui, puis après, il y a eu comment il s'appelle, leur FPS qui était super sur 64, et ils ont fait une version de chi, là.
Tu parles de
Perfect Dark, voilà.
Oui, Perfect Dark, effectivement. La suite spirituelle de GoldenEye.
Donc voilà.
Bon, allez, continuons avec la conférence. Mais t'as toujours des choses à dire.
On peut présenter nos condoléances à Rare.
Ah, écoute, peut-être qu'un jour ça sortira, à force d'essayer de teaser. Peut-être qu'un jour Microsoft va dire « Tiens, mais c'est marrant, à chaque fois qu'ils en parlent, les gens se lèvent.
Bah, » à chaque fois qu'ils en parlent, surtout, Killer Instinct se fait de plus en plus rare. Hein.
Peut-être qu'un jour ça viendra, on ne sait pas. Ou peut-être pas.
En même temps, quand tu as vu le gold...
On peut parler sinon des jeux qui vont sortir vraiment.
Ouais, allez, venez. Ouais. Okay.
Comme Aquapaza.
Bah, ils sont sur PS3, celui-là, j'en ai rien à foutre.
Oui, mais il sort le 30 août.
30 août, c'est bientôt ça.
Bah ouais,
il sera sorti quand vous écouterez ce podcast.
Exactement, c'est quand vous allez écouter ce podcast. Normalement, c'est le jour où il sort.
Ah, mais attends, c'est vrai, vous faites bien de me dire ça. Faudrait peut-être que je le commande, tiens.
Eh ben non, il sortira le lendemain, puisque le 30 sera jeudi. En tout cas, c'est bien, chez Toasty, on sait compter jusqu'à 4.
Voilà.
Faut être 4 pour y arriver aussi. Hein.
Ouais. Allez, on continue avec Riverdance Labs, pardon, et Skullgirls.
Ah, c'est puisque... Tibbs.
Ben non, Tibbs est... Tibbs dose au Cambodge, en tout cas, il essaye.
Ah, zut.
Quelqu'un veut dire ?
Non, c'est quoi la news ? C'est
ah oui, sur le patch. Il a été envoyé à Konami.
Oui.
Quand on va le recevoir, il y aura 3 couleurs gratos, c'est qu'on n'a pas de news de la version PC.
Oui, la version PC, il faudrait que je renvoie un mail pour leur demander. Mais bon, je sais pourquoi, je n'ai pas le droit de le dire, mais je sais pourquoi on n'a pas trop de nouvelles. Et donc,
J'adore quand on a des infos comme ça.
C'est lourd, quoi.
Des fois, on a des infos, on meurt d'envie de pouvoir partager en se disant, putain, mais on a du lourd, tout ça, etc. Mais bon, on a promis.
Voilà,
et du journalisme total.
Le fait que le patch arrive est déjà entre guillemets un bon signe en soi, parce que même le patch, en fait, il était promis et il allait arriver, mais bon, il y avait du bordel qui faisait que ne pas arriver.
À la base, le patch, il l'avait promis après la version PC, si je me souviens bien.
Bah oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça la version PC, si tu veux, était en précommande sur Download Gamer depuis le début juillet, et normalement, Download Gamer n'accepte les précommandes en fait que pour 30 jours. Donc en gros, le jeu était censé sortir courant juillet sur PC et le patch arrivait avec. Donc comme la version PC n'est pas arrivée, le patch non plus n'est pas arrivé, ou inversement, le patch n'est pas arrivé, donc la version PC n'est pas arrivée. Et on s'en sait pas plus pour la version PC pour le moment, quoi. Voilà.
Bah si, tu nous as dit que c'était la faute de Konami de toute façon.
Bah il y a de ça, mais bon, je vais rien dire de plus. Voilà. En même temps, Konami France, ils m'ont gravé le jeu sur un DVD quand ils m'ont envoyé une version presse, donc bon...
Et surtout une version pour un jeu en DLC.
Voilà, pour un jeu en téléchargement, c'est beau. Enfin bref.
Wow. Bref. Bon, continuons avec Sony et le PS All-Star Ultimate Battle of the Blu-ray Champions. Merci Calden pour le titre.
T'as vu.
Ouais. Alors, si vous demandez pourquoi il n'y a pas de news sur ce jeu sur le site, c'est parce qu'il me casse les couilles et que j'ai tellement la flemme de les faire que je ne les ai pas faites.
De toute façon, c'est non news, c'est juste on a su dans Famitsu qu'il annonçait pour cet hiver.
C'est à Tibbs de le faire. Tibbs,
pour ça, j'avais prévu qu'il soit là, donc je vais rédiger spécialement pour lui. Et pas là.
Bah, c'est pas vraiment une non news annoncée pour l'hiver, on sait quand est-ce qu'il sort.
Bon, on s'en doutait un petit peu que pour Noël ou pas. Bon, après, ça allait arriver.
Bah attends, mais tu sais, Aquapazza, il fait pas. Enfin, il y a des jeux comme ça. Ils nous annoncent une date ou une saison, et puis ça compte pas quand ça sort.
Là, 4 jours quand même, ce serait balèze de perdre encore un mois.
Mais est-ce que le Père Noël fait partie des personnages Sony? Est-ce qu'on le verra dans le jeu?
Qui ça?
Le Père Noël.
Écoute, c'est celui que tu peux aller prendre tes pilules et te coucher, s'il te plaît.
Très bien.
Je vous souhaite une très bonne journée. Il a dû voir le Père Noël robot de Futurama qui aurait tout à fait sa place dans un jeu de baston comme ça.
Merci. Enfin, un qui suit.
Bon, et a priori, le jeu va supporter le cross-platform.
Super.
Ouais, entre la Vita et le...
Bon, mais allez, ça veut dire qu'on pourra jouer.
On prend le putain de ce jeu.
Par contre, là, on a une super
bonne nouvelle. Attends, tu nous as fait un méga article pour dire que le jeu allait déchirer.
Non, j'ai pas dit qu'il allait déchirer. J'ai dit qu'il avait du potentiel pour déchirer. Je pense toujours qu'il a du potentiel pour déchirer. Mais la communication autour de ce jeu est merdique. Toutes les vidéos que t'as un espèce de Michael Bay en herbe qui a un fisheye, tu vois, une caméra, tu sais, qui arrondit tout là, et qui filme comme ça, genre ouh, je suis un réalisateur de ouf, comme ça. Et il filme les gens en train de jouer. Et résultat, t'as envie de vomir quand tu regardes le truc. Et ils sont là, ah ouais, t'as le perso, vas-y, on lui a mis son skateboard parce que tu vois. Enfin, les rappeurs, ils font du skateboard.
Tu vois. Il me reste des pilules si tu veux que je partage.
Bref, donc non, mais la communication de ce jeu est complètement foirée et foireuse et chiante et on n'apprend rien. En fait, j'ai arrêté de balancer des vidéos et des trucs comme ça parce qu'en fait, on n'apprend strictement rien sur les personnages quand ils en parlent. Certes, on voit les mouvements, mais c'est tout en fait. Il n'y a rien qui est expliqué, rien sur comment ça peut être utilisé, comment le système de jeu fonctionne, etc. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien.
C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de gameplay. Hein.
Mario,
enfin, si, il y a un truc, pourtant les gens qui l'ont testé ont fait des articles sympas dessus qui expliquent pas mal de choses, mais sur les nouveaux personnages, bah voilà, il n'y a pas eu de mise à jour, entre guillemets, pour la presse, des informations, du développement, etc. Donc voilà. C'est pour ça que tant qu'il n'y a rien de croustillant ou d'un peu intéressant, on ne le news pas trop. Quoi. Voilà.
Bon. Allez, en parlant de trucs intéressants, Wellcook, tu nous as fait une news sur un jeu qui doit arriver sur 3DS.
Un putain de jeu.
Yatagarasu !
Putain, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Oh là là.
Ah, c'est top, ça c'est la bonne nouvelle.
Bah il y a 6 persos dans le jeu, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, bah, à la base, c'est un jeu qui est sorti sur PC au Comic Edge, je crois, il y a 3-4 ans. Ou peut-être 200
Non, il est beaucoup plus récemment que ça en fait. Il est en développement depuis longtemps, mais il est sorti au Comic-Con, je pense que c'est celui de l'année dernière, donc au Comic-Con 2011.
D'accord.
Et
donc, très approprié au Japon, hein, pour ceux qui fréquentent des petites boutiques qui vendent des jeux amateurs ou qui vont dans les conventions. Et donc voilà, apparemment ils vont le sortir sur 3DS et puis il y a un éditeur américain qui a été intéressé. Et il voudra sortir le jeu chez nous.
Je sais pas qui a réussi à le bullshitter à ce point, mais c'est extraordinaire.
C'est bon parce que le mec qui a développé ce jeu, ça, en plus, c'est pas un amateur. Hein, voilà. C'est un ancien de SNK qui s'appelle Styleos, Tomoyuki Kitani, là, et qui est à l'origine de plusieurs persos sur Last Blade ou je sais pas si c'est Garou les derniers King of Fighters.
Je peux pas te le confirmer, mais Last Blade, c'est sûr et certain.
Oui. Et on reconnaît le style du personnage. Alors le jeu ressemble en fait à un 3.3 avec des personnages stylés SNK.
Quand on regarde le système de jeu. Le jeu fait très SNK quand même au niveau de la réalisation des sprites.
Ensuite, au niveau du système de jeu, c'est plus un 3.3. Tu as des paris, ça se rapproche plus du 3.3 que de...
J'avais lu une interview de Tomoyuki qui exprimait à quel point il trouvait que Street Fighter 3 était vraiment un excellent jeu et qu'il aurait aimé graphiquement pouvoir s'en occuper. Sous-entendu, voilà, moi j'aime bien le gameplay de base, mais graphiquement, je suis sûr que j'aurais fait mieux.
Oh l'enculé.
Ah mais c'est ce qu'il a fait avec ce jeu-là.
Mais grosso modo, c'est ce qu'il décide. Enfin, c'est son point de vue. Mais moi, graphiquement, j'ai toujours aimé le travail d'SNK.
Il y a une dizaine de persos seulement, il me semble. Il y a 8 ou 10 persos, je sais plus.
Enfin, c'est un travail colossal en même temps sur chaque perso. Donc
Ouais, c'est un peu ça.
Donc c'est juste pour dire que maintenant que j'ai une 3DS, j'ai hâte que le jeu sorte en Europe. Parce que sinon, on pourra pas y jouer.
Maintenant que Wellcook a une 3DS, on va avoir des news sur la 3DS.
Bah ouais.
Ouais, super. Heureusement qu'il a pas d'iPad.
Des news sur la 3DS ? Non. Non. Moi, quoi, il faut que les fasse, mais il a pas l'air motivé, donc non.
Si, je te ferai des news sur les jeux qui sortent en émulation sur le.
Sur
la 3DS. Nintendo.
Pitié, quoi.
Et oui, Kung Fu est sorti.
Attends, je vais vérifier.
Ne l'écoutez pas.
Il y avait un jeu de baston sur NES avec une garde haute, une garde basse, j'ai oublié comment il s'appelait.
Hier Kung Fu, il y en a plein.
Non, c'est pas Hier Kung Fu, c'était un vrai jeu de genre Street Fighter. Il y avait un nom comme ça, genre c'était la baston de rue ou je sais plus quoi. Je vous retrouverai le nom.
Je te signale que Street Fighter 2 est sorti sur NES. Hein.
Non, mais je te parle de bien bien avant Street Fighter.
Il y a aussi le jeu Tortue Ninja Fighting sur NES aussi, avec le flash kick de Donatello, je crois, qui est pété.
Ouais,
je te jure.
Oui, bah oui, c'est... Tips nous avait montré une vidéo.
C'est ça, ouais.
Donc, je joue à Street 2 avec deux boutons.
Bref.
Pourquoi pas.
Ah, attends, moi j'ai joué sur Atari ST, tu joues avec un bouton.
Ouais, mais voilà. Atari ST, c'est la pire version de Street 2 que je connaisse.
Ah, pas mal.
Il y avait une version Mega Drive aussi où tu avais tapé sur
Start. Ouais, mais allez, on arrête là. Oh là, ça nous ressort, les vieilles rengaines là, on se croirait.
Alors à ce moment-là, tu avais la version PC Engine où là, tu avais en plus deux boutons, le bouton Start et tu pouvais jongler pour avoir trois boutons supplémentaires suivant la manette que tu avais.
Bienvenue dans Toasty 12.
Vous savez quoi, je pense que les prochains Toasty, on les fera sur Mumble. Quand je viens comme ça, je pourrai vous muter et je parlerai au-dessus en disant bon, allez, on s'en fout de ce qu'il dit, continuons, etc. Voilà.
Tu sais qu'on vient de te couper, que personne n'a entendu ce que tu viens de dire.
Quoi?
Bon, Kaldan, tu as repéré un article sur GGPO.
Ouais, un article dans un magazine online qui s'appelle Game Developer Magazine, qui coûte 4$ le numéro. Alors ça a été repéré par Shoryuken, et il y a le développeur de GGPO qui parle justement de son code réseau et qui explique comment ça fonctionne. Et donc c'est assez intéressant. Bon, on n'a pas l'article entier, mais on a plus d'informations sur la manière dont fonctionne GGPO. Donc si ça vous intéresse, c'est un peu expliqué le fait que GGPO fonctionne. En fait, le système de rollback de GGPO fonctionne en fait en imaginant les frames que le joueur va faire. Typiquement, votre joueur peut avancer, peut sauter, peut
donc
bouger.
Donc c'est un algorithme prédictif, tu es en train de nous dire.
Voilà, tout à fait. Sauf que je suis nul en maths. En gros, ce que va faire GGPO, GGPO va ne faire aucun lag du côté du joueur, de vous le joueur. Vous lancez votre boule de feu à l'avance, de toute façon ça change rien du tout. Par contre, ce que va faire l'adversaire, vous ne pouvez pas le prévoir. Donc le jeu va prévoir, est-ce que l'adversaire va bloquer, est-ce qu'il va sauter, est-ce qu'il va essayer d'avancer, et il va avancer frame par frame. Et si à la frame d'après, ce qu'il a prédit, que le joueur qui est en train de reculer aura continué de reculer pour bloquer, ne se produit pas, il va faire un petit rollback pour faire ce qui s'est vraiment passé. En gros, c'est le code réseau, c'est basé sur ce principe-là. Après, il faut aller chercher l'article, si vous êtes plus intéressé que ça dans les détails, il faut aller chercher l'article directement sur Shoryuken ou sur le Game Developer Magazine, que vous trouverez sans problème en cherchant gdmag.com en fait.
Ok. Bon, moi j'ai retrouvé le nom du jeu, ça s'appelait Urban Champion.
Ça, c'est fait.
Truc, là.
J'ai tué l'ambiance, c'est cool. Voilà.
Ouais, mais il a l'air chouette.
Ah ouais.
Ouais, graphiquement, il déchire pas mal. Hein.
Ouais, il y avait garde haute, garde basse. Quand tu prenais une mandale, ça te faisait tomber par terre.
Graphiquement, ça me fait penser à ces jeux LCD qu'on avait chez Nintendo.
Ah, t'as même le mec qui envoie des pots de fleurs au-dessus. Qui fait tomber des pots de fleurs dessus. Ouais. Ah, c'est cool.
Faudra mettre les images dans la news que les gens voient de quoi on parle.
Faudra streamer justement un peu de ce jeu.
Oh. Alors ça je demande. Je demande à voir les gars. Bon, passons au journal du hard. Puisque les Switch Cherry MX sont en pré-production.
Wouhou.
Donc voilà, c'est cool. C'est les silencieux, c'est ça?
Non, en fait, oui, c'est plus silencieux que les Sanwa. Quoique je ne sais pas par rapport au Sanwa, à la version nouvelle et silencieuse des Sanwa, je ne sais pas vraiment la... On n'a pas vraiment d'infos précises sur les Sanwa silencieux, mais bref.
Toujours est-il. On les a pas eu entre les mains, donc c'est toujours difficile de comparer. Là.
Exact. Donc en gros, les Switch Cherry, si tu veux, ça reprend, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais en gros, ça reprend des Switch qui ont différents feelings au niveau de la pression. Il y a ce qu'on appelle le feeling linéaire et le feeling tactile. Le feeling linéaire, c'est-à-dire que quand tu appuies, tu vas avoir contrairement à la plupart des boutons où généralement tu as une résistance qui va croissante quand tu appuies sur le truc, les Switch linéaires, en fait, la pression est constante le long, c'est-à-dire que tu dois mettre le même poids tout au long jusqu'à ce que tu arrives en butée sans avoir besoin de forcer plus. Et enfin, le Switch tactile reprend le même principe, sauf qu'il y a un cran au milieu quand tu appuies qui te dit en fait que l'input a été pris en compte et que tu peux relâcher, donc le bouton te, comment dire, essaie de te...
T'as une réponse.
T'as une réponse. Il essaie de t'indiquer en fait que tu vois, ça a été pris en compte et que tu peux relâcher. T'es pas obligé d'aller jusqu'en butée. Et il y a et donc parmi ces switches, on compte deux types dans chaque. T'as les linéaires qui sont les rouges et les noirs. Les noirs sont des versions, je crois que c'est, il y a un poids de 55 grammes, donc c'est des touches assez dures mine de rien. Et les rouges font 40 ou 45 grammes. Donc ce sont très légers au tactile, mine de rien ça joue vachement. Et après au niveau tactile, il y a les marrons et les bleus. Les marrons sont ont un point tactile très
55 je crois.
Je crois que c'est ça 55. Non, c'est un peu moins. Je crois que c'est
si 50. Je l'ai sous les yeux, 55.
55 d'accord. Donc c'est 55 mais il y a pas besoin d'aller jusqu'au fond. Donc c'est moins fatigant en termes de frappe si tu veux et c'est bien pour la dactylo. Et enfin tu as le bleu. Et le bleu, il me semble, est à 50. Et pour le coup, lui, il a deux parties qui sont détachées. C'est-à-dire qu'en fait, ta touche vraiment ne va qu'à mi-course. Et après, tu as une forme détachable en fait, dans le bouton qui va jusqu'à la butée pour prendre l'input. Donc ça fait un clic-clic-clic extrêmement caractéristique et très bruyant. C'est ça qu'Yamatoa notamment, et c'est insupportable quand son micro est mal réglé. Bref, et donc, tout le monde parle du fait que ce sont des boutons silencieux, mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, ça va être le toucher, parce que les boutons sanois sont des boutons linéaires, finalement, avec une course qui est à peu près la même que celle des Switch Cherry, mais l'activation des Switch Cherry est plus longue, c'est-à-dire qu'il faut pousser le bouton plus loin que les sanois, ou quand on appuie
c'est
à peine...
C'est pas linéaire, les sanois.
Ils sont pas linéaires, les sanois.
Ah non, c'est des ressorts qu'il y a dedans.
Oui, mais c'est des ressorts aussi sur les
Cherry. À partir du moment où tu as un ressort, c'est pas linéaire, c'est la définition du ressort.
Voilà, on se comprend. Donc voilà, en gros, le principe des Cherry, c'est que normalement, tu n'as pas à forcer plus en allant au fond. C'est-à-dire que le poids que tu mets est constant. Quoi,
d'accord, oui, ça oui, voilà. D'accord. Mais le sanois n'est pas linéaire.
Donc, le sanois n'est pas tout à fait linéaire. Quoi,
plus tu appuies profondément, plus tu dois appuyer fort.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça va être un feeling vraiment différent, une course un peu plus longue, et ça va être intéressant, tout simplement, quoi.
Tout en rappelant, du coup, que suivant les boutons, donc comme on expliquait tout à l'heure, la pression n'étant pas la même, je pense que ça va convenir plus ou moins à certains joueurs. Et il est intéressant de voir qu'il y a peut-être justement des joueurs qui jouent un peu bourrin, qui seront peut-être amenés à choisir des boutons qui sont peut-être un peu plus durs, et alors que d'autres trouveront leur compte justement dans des boutons qui sont un petit peu plus fins au niveau du toucher.
Moi, je trouve, j'insiste, mais je trouve que c'est un projet inutile.
Inutile, oui et non. On verra quand ce sera fait.
Juste laisse-moi développer avant que je dise que c'est inutile. C'est juste que quand on a un sticker 4, ce qu'on a envie, c'est d'avoir le même matos qu'on a sur une borne pour ne pas être dépisé, pour quand on passe de l'un à l'autre. Vouloir mettre des sticks, des boutons custom, des trucs personnalisés. Au bout d'un moment, tu vas avoir des gens qui vont arriver au Togeki devant la porte, qui vont dire « Oh, je ne suis pas content, ce n'est pas mes Switch ». Ouais, bon, je caricature.
On s'en bat les couilles, le Tougeki, c'est devenu un tournoi de merde qui se fait en plein soleil. Donc, d'une part, aux ailes.
Rappelle-toi de Bruno Vess.
J'ai pas mon stick.
Je nuancerais ce qu'il était en train de dire Wellcook, parce que je suis vraiment d'accord avec lui dans le fait que logiquement le stick arcade est là pour te rappeler justement la sensation arcade. Malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que tout doucement l'arcade, alors je parle pas partout, mais a tendance à de moins en moins être présent, et du coup c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'y vont pas mais qui ont quand même envie de pouvoir bénéficier en fait du principe du stick et qui vont peut-être trouver chaussures à leurs pieds là-dessus. La dernière fois on parlait du stick ou pour gaucher ou etc. et j'avais le même discours que Wellcook en disant mais c'est complètement débile parce que quand tu vas arriver quelque part le stick il va être à gauche et tes boutons à droite, donc l'inverser c'est débile. Mais peut-être qu'il y a des gens en fait qui n'iront finalement jamais en arcade et qui vont se retrouver avec leur stick qui les intéresse.
En même temps, pour avoir déjà été en arcade, en fait, je me suis mis au stick arcade moi en 2006 parce que j'avais joué pour la première fois sur borne et je m'étais dit je veux pouvoir jouer sur borne quand je veux. Et dans les faits, ayant depuis joué sur beaucoup de bornes dans beaucoup d'endroits différents avec beaucoup aussi de sticks différents, honnêtement, le modèle de bouton et de stick, j'ai joué sur du Seimitsu, sur du Sanois, sur différents types de Seimitsu aussi. D'ailleurs, depuis, je teste un Seimitsu sur un de mes sticks pour m'habituer et tester de nouveaux trucs. Honnêtement, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que la manipulation, tu sais la faire, le bouton, tu sais le faire. Enfin, ça change rien.
C'est moins flagrant quand tu passes d'un pad à un stick, effectivement.
Voilà. Enfin, tu joues pareil.
n'y a qu'en France où on est très tatillon sur les sticks et voilà. Tout. Parce qu'au Japon, c'est beaucoup plus uniformisé qu'on veut nous le faire croire. Mais beaucoup, beaucoup plus. C'est vraiment de base, tu trouves quasiment du sanwa partout.
Voilà. Bah, le truc, c'est
et qu'est-ce qui vous dit que demain, ce ne sera pas des boutons cherry qu'on va trouver partout parce que ça va plaire aux gens?
Bah non, on n'en trouvera pas partout parce que c'est pas japonais et que le Japon ça consomme japonais et que ça va non, pas commander à des Chinois, tu vois.
Au Japon, mais puis même, en allant plus loin, de toute façon, le problème, Jojo, que tu soulèves, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un type de bouton pour toutes les bornes. Or là, il y a plein de propositions différentes. Là, quand
on parle mais le bouton, c'est moins grave que les sticks.
Je suis complètement d'accord avec toi, Wellcook. Si jamais tu prends un stick en poire ou etc., les sensations sont plus du tout les mêmes.
Ah, mais après, juste pour revenir sur ce projet-là, c'est un peu un projet pour geek qui a l'habitude de
jouer sur complètement.
Et voilà, et ça ira pas beaucoup plus loin. Mais
non, bon. Ça ira pas plus loin. Mais là où c'est intéressant, c'est juste, tu sais, tout comme tu joues à plein de jeux différents parce que t'aimes bien, tu testes différents matériels et puis c'est cool, quoi. C'est mais juste
contrairement
ça,
à vous, je suis pas certain que ça n'aille pas plus loin. Je sais pas si ça ne marchera pas.
TMDJC, bon, on te rappelle, on est sur une pente descendante du jeu de combat aujourd'hui. L'équipement des joueurs, enfin le niveau d'équipement des joueurs en stick aujourd'hui, je pense qu'il a atteint. C'est bon. Les joueurs sont équipés. Donc, vouloir révolutionner l'équipement chez les gens et tout, alors qu'ils ne vont plus investir là-dedans, je pense que ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui. C'est juste
mais
un truc.
Non, mais les mecs l'ont fait pour eux à la base.
Oui, voilà.
Ce serait cool.
Petit 1.
Et puis, si tu pars de ce principe-là, à ce moment-là, tu n'innoves plus.
Non, mais ce
qu'on peut dire, c'est. Ça y est, il y a quelque chose qui existe, c'est pas la peine de faire le tien.
Je te dis que le marché, maintenant, c'est bon, il est saturé.
Mais il n'y a pas que les joueurs de jeux de baston qui utilisent des boutons d'arcade.
Et puis même, Valentin te dirait que les changent leurs boutons avant qu'ils soient niqués. Le mec, il veut changer de bouton parce qu'il veut changer de couleur, parce qu'il refait son style, etc.
ça, c'est ouf, mais en fait, oui, il disait qu'il a quasiment jamais de gens qui arrivent avec des boutons vraiment pétés, en fait.
Je suis pas certain que ça ne marchera pas.
Non, c'est juste pour moi, j'en ai commandé pour moi, mais c'est vraiment dû parce que je tape déjà en fait pour comprendre pourquoi ça intéresse certaines personnes, faut déjà taper sur clavier mécanique. Moi ça fait un an que je tape sur clavier mécanique, jamais je reviendrai sur un clavier à membrane si tu veux. Donc à partir de ce moment-là, quand je vois comment j'ai adopté et comment j'aime, tu vois, ce rendu, ce toucher, je me dis tiens, sur un stick pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si ça me plaît autant que passer un clavier mécanique m'a plu, ça pourrait être cool. Et puis voilà, j'ai toujours de toute façon un stick full sanois à la maison et j'ai mon stick tout dégueulasse où je change les boutons, le stick et le machin tous les 6 mois pour tester. Et puis voilà, tu vois, c'est vraiment pour le fun, pour la découverte, pour l'essai, et puis comme on dit, pour l'innovation, ce genre de choses.
On est d'accord, c'est changé pour changer.
Voilà, c'est changer pour se faire plaisir, pour découvrir de nouveaux trucs. Quoi.
Mais même si ça n'était que ça, je répète, il y a quand même tout un pan de consommateurs qui est de cet acabit. Je dis pas que ce sera un grand succès, je dis pas que tout ça va remplacer Sanwa partout, etc. C'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que ça peut marcher.
Passionnant les débats sur Bagropoint.
En fait, le problème que t'as, Seb, c'est que dans le truc, c'est que les boutons de Cherry, si tu veux, ont une résistance qui est beaucoup plus grande. Enfin, les Switch ont une résistance absolument énorme. Et en fait, c'est pas rentable de faire des Switch comme ça parce que tu les vendras plus cher et ils dureront plus longtemps. Donc, en fait, je sais pas si le business model, en fait, si c'est trop solide, en fait, tu vas en vendre pendant 1 an et demi, 2 ans et puis après, tout le monde va les garder 10 ans, tes trucs. Donc, je sais pas si
non,
c'est
mais,
le bon plan.
Non, mais on en revient à ce que disait Valentin. Les mecs, ils changent leurs boutons par plaisir. Donc, je vois pas pourquoi. Enfin, si le truc il dure 10 ans, etc. Si tout d'un coup tu refais la coque de ton stick et que tu veux des boutons rouges alors qu'ils étaient bleus avant, tu vas les changer.
Ouais. Bon, tu sais à quel point j'aime pas te couper la parole, mais il faut qu'on avance.
Moi aussi, il faut qu'on avance en plus.
Je voudrais demander à notre invité ce qu'il pense de ces boutons.
Et s'il a une question.
À Lucard. Ou s'il en a rien à foutre et que voilà.
En fait, j'ai pas trop suivi le truc au niveau de ces boutons-là. Moi perso, j'utilise que du sanois en général. Donc voilà, moi ça me va bien. Et a priori, en tant qu'utilisateur, ça me passe un peu par-dessus. J'ai deux sticks chez moi et je sais que a priori, je vais pas en changer tout de suite en tout cas.
Bon, tu sais que tu n'illustres pas du tout mon exemple et qu'on va devoir accrocher, on est d'accord.
Ouais, mais tu n'as jamais eu l'occasion de tester. Si demain, dans un tournoi, on te fait tester un stick et que tu te rends compte que la sensation est meilleure pour toi en tant que joueur qu'avec ton stick, avec tes boutons sanois, tu changerais, tu serais prêt à changer.
Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est sûr, mais voilà, c'est ce que je dis, a priori.
Oui, parce qu'a priori, oui, t'as pas changé. C'est vrai que pour l'instant, le sanois, c'est quand même... tout le monde les prend parce que c'est des bons boutons, faut pas se leurrer, c'est pas un effet de mode. On n'est pas avec un iPad ou avec quoi que ce soit.
C'est parce
Bon, le débat est un peu long juste pour des boutons quand même.
Ouais, ouais. Allô, Cardo. Donc on t'a invité pour que tu nous parles un petit peu de Dead or Alive 5, de ce que tu en attends, des mécaniques de jeu. Enfin voilà, parle-nous du jeu à venir, dis-nous comment toi tu le vois et ce qui te plaît, ce qui te fait peur.
Alors en fait, le jeu semble vraiment meilleur que les autres, dans le sens où il réforme un peu le jeu, notamment au niveau du jeu de stun en fait. C'est-à-dire que dans les anciens DOA, quand on trouve le counter hit, pour faire simple, l'adversaire est stun et il est dans une situation où il ne peut que contrer. Et là donc faire un choix un peu du genre pierre papier ciseaux en fait, où la chope bat le contre. En fait, une chope qui passe dans un contre, ça fait 150% de dégâts, donc ça fait très mal. Et donc voilà, et là ils ont un peu réformé en rajoutant des stuns qui sont pas du tout contrables, donc qui garantissent des trucs. Donc a priori, ça va être un jeu un peu plus violent en fait en termes. Et donc à mon avis, ça va plus camper qu'avant parce que ça va avoir plus peur en fait des situations comme ça, parce qu'elles vont être beaucoup plus dangereuses en fait. Les combos mi-bar complètement garantis en fait, ça va devenir une norme un peu à la manière des autres jeux de baston 3D quoi. Moi je tente ça avec je pense que ça va être bien. Après ils ont implémenté des steps aussi, donc parce qu'il faut savoir que c'est un jeu 3D qui n'a pas de step en fait. C'est assez,
c'est quoi un step?
C'est quand tu passes dans l'environnement, quand t'évites un coup en fait sur le côté.
Un pas de côté quoi.
Ouais, un pas de côté. Et donc il y en a dans tous les jeux 3D, et en fait dans les anciens DOA, c'est une mécanique qui n'existe pas. Alors on peut se déplacer sur le côté, mais c'est juste pour se placer par rapport à l'environnement. C'est tout en fait. Tu vas pas éviter des coups en fait en te déplaçant sur le côté dans
ce que tu veux dire, c'est que contrairement à un Virtua Fighter ou un Tekken, ça fait pas partie du gameplay.
De base, ouais. En fait, dans les anciens DOA. Et en fait,
donc tu peux pas gérer l'espace dans DOA.
En fait, si, mais pas pour éviter des coups.
D'accord. Juste pour te déplacer.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que dans DOA, les arènes, elles sont. Il y a beaucoup d'éléments. Tu vas prendre en compte hein, entre les arbres qui sont là au pif, les machins, enfin il y a tout un tas de choses. Donc effectivement, se déplacer pour ne pas être derrière un mur ou quoi, ça peut être intéressant. Là en fait ils ont rajouté vraiment une mécanique de step assez proche de celle de VF en fait, où le step, enfin faut le faire au bon moment en fait pour qu'il soit efficace. Et donc voilà, ça a l'air assez intéressant. Après moi j'ai pas pu jouer au jeu vraiment, j'ai juste testé l'alpha, donc j'ai pu juste constater sur les vidéos et les différents articles, mais ça, on peut pas savoir ce que ça va réellement donner. Une chose est sûre, c'est que le jeu a l'air plus solide que les anciennes versions.
Qu'est-ce que t'entends par plus solide?
En fait il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que dans les anciens DOA, c'était des jeux un peu où c'était beaucoup de mind game en fait.
Oui, oui.
Beaucoup de setup en fait, où il fallait faire un choix, et en fait il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que de prendre cette décision là. Les options défensives et offensives étaient relativement limitées on va dire, et là il y en aura beaucoup plus, donc ça c'est beaucoup mieux. Enfin tu vois, on se rapproche plus d'un des autres licences en termes de gameplay, on va dire. Par exemple, ils ont baissé les stuns sur les coups bas. C'est-à-dire qu'avant, en fait, un lot invisible, bien sûr, ça mettait à plus 15.
Oui.
C'est assez violent, en fait. Maintenant, on va être à plus 2, plus 3, plus 5.
Ah oui, donc ça change radicalement.
J'ai rien compris.
En fait, si tu veux, le principe, c'est qu'avant, il y avait trop de choses un peu trop garanties qui donnaient, en fait...
trop gros
avantages. Le pif payé, quoi. On va dire ça comme ça avant.
Il y avait trop de situations où on était obligé de piffer un truc. Ça a été quand même partiellement enlevé, quoi. Après, il y aura toujours des choix. Et dans tous les jeux de baston, il y a des prises de décision. C'est bien comme ça.
Heureusement, là.
Tu penses que c'est le genre de choses qui peut aider le jeu à être dosé à plus haut niveau et peut-être à revoir une communauté se former et jouer le jeu, enfin, qu'il ait une scène beaucoup plus vive qu'aujourd'hui?
Oui, je pense que ça va clairement aider. Et puis bon, après, c'est sûr que il sort dans une période où le jeu de baston est plus explosé, donc il y aura forcément plus de gens qu'avant. Puisque bon, à l'époque où DOA 4 est sorti, la 360 venait juste de sortir, donc déjà il n'y avait pas grand monde qui avait la console, il y avait des sticks assez mauvais qui étaient sortis dessus, donc bon, voilà quoi.
Ça, c'est clair qu'au niveau du timing, voilà. c'était pas la meilleure chose qu'ils aient fait, mais.
Mais est-ce que sortir aussi proche que Tekken Tag Tournament 2, c'est pas aussi un mauvais timing?
C'est un risque, hein.
Le problème, ouais. Tu vois, c'est un truc qu'ils pouvaient pas, entre guillemets, prévoir, et voilà quoi. Bon, après, je sais pas si. De toute façon, ils n'ont pas eu des prévisions, ils sont pas, entre guillemets, over. J'ai pas envie de dire qu'ils sont pas confiants, mais ils espèrent pas non plus en vendre 2 millions, tu vois. Ils ont dit qu'ils aimeraient bien vendre 1 million de DOA 5 sur la période de Noël, ce qui est déjà beaucoup, et en même temps, le jeu a quand même fait pas mal d'efforts pour se renouveler, pour faire de nouveaux trucs, ce qui est pas mal, alors qu'à côté de ça, t'as Tekken Tag Tournament 2, et déjà que... En fait, Tekken Tag Tournament 2, il va se vendre, il peut faire de l'ombre à DOA uniquement si les gens, en fait, il marchera vraiment très bien Tekken Tag 2, en fait, uniquement si des anciens joueurs de Tekken 3 se laissent prendre au jeu et se disent qu'ils achètent le jeu, en fait, parce que sinon ce seront juste des fans de Tekken 6 qui y joueront, et c'est un peu la problématique, quoi. Les deux jeux, en fait, appellent à un public qui a connu la licence et revient, entre guillemets, à leurs racines, ou remet des personnages ou une mise en avant qui est plus traditionnelle et qui plaira aux nouveaux comme aux très anciens ou comme aux hardcore gamers qui jouent toujours à Tekken 6 ou à DOA 4. Donc résultat, tout va se jouer un petit peu sur est-ce que les nostalgiques vont prendre le jeu, et si oui, lequel ils vont prendre, en fait, quoi.
Je nuancerais ce que tu disais en exprimant, enfin je rebondis sur ce que disait Jojo également. On parle pas de la qualité du jeu, entendons-nous bien, on parle de sa période de sortie et de l'environnement, alors du coup particulièrement en France, mais ce sera le cas ailleurs, dans lequel il va se trouver. C'est pas effectivement évident de se retrouver face à Tekken, mais c'est aussi rappeler que là aujourd'hui, quand tu regardes tout jeu de baston confondu, l'âge d'or du renouveau du jeu de baston est à nouveau derrière nous. C'est-à-dire que là, les éditeurs vendent moins de jeux aujourd'hui qu'ils en vendaient quand Street 4 est sorti. Et on le sait, c'est par vague, c'est comme ça. Et c'est clair que Wellcook disait 1 million, c'est déjà pas mal. Je suis complètement d'accord avec lui. S'ils arrivent à en tirer 1 million, c'est déjà bien.
Moi, j'espère pour eux qu'ils vont le faire.
Et c'est vrai que
je leur souhaite, ouais. Mais c'est pas gagné.
Bien sûr. Par contre, c'est vrai que là, nous, on a la communauté française, on a monté un site et un forum, et on voit énormément de personnes, en fait, qui ont arrêté DOA à DOA 2 parce qu'après, ils ne sont pas sortis sur les consoles Sony, qui comptent s'y remettre, en fait, du fait qu'ils sortent sur PS3. Donc c'est vrai qu'il y aura tout un pan de joueurs, quand même.
Bien sûr, mais le jeu se vendra, ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, est-ce qu'il se vendra jusqu'à leur espérance? Je leur souhaite.
Je pense qu'en fait Dead or Alive 5 a peut-être autant de chances, voire peut-être plus, de se vendre que Tekken Tag 2, entre guillemets, en termes de proportion, parce que Tekken Tag 2, à mon avis, ils veulent pas qu'en vendre 1 million, hein, je pense. À mon avis, eux, ils voient déjà un petit peu plus loin, tu vois. Mais dans les faits, j'ai l'impression, en tout cas, que Dead or Alive 5 peut peut-être plus réussir son comeback que Tekken Tag Tournament 2, parce que Tekken Tag Tournament 2, il est sorti, il y en avait déjà un en 2008-2009, je ne me rappelle plus, Wellcook peut peut-être m'aider. C'était 2008-2009,
Tekken Tag Tournament, Tekken 6
ouais.
Je sais pas, 2009. Il a déjà été sorti sur console 2 ans après l'arcade, donc
ouais, voilà,
donc, c'est pas évident à suivre. Je sais plus.
2009.
C'était 2009, je crois, 2008 ou 2009. Ouais, donc voilà, alors que DOA, le dernier, c'est quand même 2006, si je me trompe pas, non ?
C'est fin 2005, ouais. Enfin, ça dépend.
Fin 2005. Enfin, tu vois, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu un DOA, le jeu, il est super beau, il y a des trucs, enfin...
Non, mais comme je te disais, comme te dit notre invité, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué, qui n'ont pas joué depuis le 2, parce que le 2 a été le dernier qui était multiconsole. Donc pour tous ces gens-là, c'est un nouveau DOA, quoi qu'il arrive.
Ah, excusez-moi, on m'appelle. Continuez.
Bon, et puis de toute manière, on sait très bien ce qu'ils ont besoin de faire pour que le jeu se vende. Un DLC Beach Volley et le million, il est atteint en 2 semaines. Hein.
Ah, ça c'est complètement garanti. Hein.
D'accord.
Voilà. Bon. Eh ben, écoute, tu nous parlais de la communauté. Vous avez un site, un forum, donc tu disais.
Ouais, c'est ça. C'est donc le site s'appelle icounter.com. Donc c'est icounter.com.
Et bon, on mettra même le lien sur les news, hein, Jojo.
Bien sûr. Qui fait la news cette semaine?
Merde.
Il reste que toi, Lucardo.
Ok.
T'es content d'être venu.
Ouais, bon, bah, je vais casser des murs.
Non. Ok. Eh ben, écoute, on en parlera. Et puis, je sais pas quoi dire.
Surtout que tout doucement,
c'est
2 heures qu'on enregistre. C'est
grave. Ouais, ça fait un peu 1h15. Alors, on va aller très vite là, sur les tournois et events à venir. Le Ring Out à Strasbourg, le 1er septembre.
Ouais, avec Persona 4. Persona 4 désormais. Oui, ils font du Persona 4 maintenant au Ring Out. Donc c'est 4 euros l'entrée, ils vendent des canettes à 1 euro. Enfin, c'est comme ils ont déjà fait précédemment. Vous avez les détails sur le forum.
Exactement. Le Bushido, Paris 11e, le 1er et le 2 septembre. Les réservations sont finies. Hein. Donc si vous aviez prévu. Des pré-réservations en tout cas sont terminées. Sauf sur UMVC3, il me semble.
T'es sûr?
J'ai vu passer un truc tout à l'heure. D'accord. Là-dessus.
Bon, sachant qu'il y a des spots qualificatifs, du coup.
Oui. Même pour des jeux qui ne sont pas encore sortis, paraît-il.
Oui. Notamment Street Cross Taken, tout à fait.
Voilà, 15 et 16 septembre au Portugal, il y aura le Lockdown. Et le 3 et 4 novembre, à la Paris Games Week, il y aura le tournoi des 25 ans de Street Fighter. Et on a appris aujourd'hui que pendant la Paris Games Week également, il y aura, je te laisse le dire, Kaldan.
Le God fait par Max Damage, effectivement.
Ouais, exactement, c'est tombé.
Ouais, j'ai pas l'info sous les yeux, mais effectivement, ce sera pendant la Paris Games Week où vous avez un Get Rich or Die Fighting. Donc,
ils font un tournoi UMVC3 en fait.
On va aller voir sur leur site, ils font un gros tournoi, ouais, c'est sympa.
Ouais, je sais pas si on mettra ça dans la news. Allez, on est complètement fou.
On remerciera Tengu qui nous l'a tweeté.
Ouais.
Voilà. Et Will Tupac qui devait venir nous en parler. Voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
On a réussi, ouais.
Ça ne fait même pas 1h20.
Qu'est-ce
qu'on...
Qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura à nouveau des actus?
On était perdus, c'est pour ça, on a pu nous repère.
Est-ce qu'on a récupéré le chef ou toujours pas?
Je sais pas.
Non, je pense qu'il est parti.
Non.
Mais quand il y aura des actus, on aura peut-être moins de conneries à dire aussi, du coup.
Ouais. Bon, on garde. Alors, il nous fera peut-être un debriefing sur le drama du Bushido la prochaine fois.
Ah, sait-on jamais.
Mais c'est quoi ce Bushido?
Justement, chut, c'est pas. Mais bon, on compte sur les talents de compteur du chef. Mais je suis quoi, il nous écoute pas.
C'est pas Cavani qui voulait pas nous en parler.
Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir été présents.
Merci à Lucardo.
Merci à Lucardo d'être venu. De nous avoir supportés. Merci pour toutes ces informations sur Dead or Alive.
Pas de problème.
J'espère que ça donnera envie à de nombreuses personnes de doser le jeu et de venir sur votre site et renforcer votre communauté.
Ouais, j'espère aussi. Il faut.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais.
Exactement. Et puis, en attendant le DLC Beach Volley de Dead or Alive, on vous fait des bisous. TMDJC.
Allez, salut.
C'est qui le gagnant cette semaine?
Comme d'habitude, ça peut être Mako.
On est à
bien
là.
Beat by 3.
Ça y est, c'est officiel. Voilà. Et
Là, comme il vient de terminer d'écouter le Tosti, en plus, je suis sûr qu'il a déjà répondu.
Sûrement. Voilà. Sûrement, mais bon, allez, on va encore modifier l'heure de diffusion de Tosti. Là, j'ai fait à peu près les mêmes horaires. Là, je vais commencer à devenir vicieux.
Oh, mais tu l'es déjà.
Chut, faut pas le dire. Allez, ouais, à très bientôt.
Bon, ben, salut tout le monde.
À plus.
Au revoir.
Bisous.
Bonne bourre.
Ben voilà, je n'enregistre plus.
Okay, bon, c'est bon pour vous. Bon, moi, faut que je me trouve.
Ah, faut que je pisse.
Ok.
Ça marche aussi.
Eh ben, écoutez, amusez-vous bien, hein, chacun.
Je vous pisse tous. Et puis, bah, la semaine prochaine, si je vous ai pas d'ici là.
Ouais, le coup qu'il est en forme là pour les articles, donc il va faire.
Allez, l'article. Salut, bisous.
Non. Non, non.
Attends, t'es sur la bonne lancée, là. Attends, on a sorti
trois chats, là. Non. Je vous ai montré une fois comment on faisait. Maintenant, c'est à vous de prendre les choses en main, hein, les gars.
Il dit ça, en fait, parce qu'il s'est dit qu'en rentrant de vacances, ça allait être à lui de le faire.
Oui, surtout que je parle 20, donc j'ai encore du temps devant moi.
Ouais. Est-ce que vous avez vu la photo de...